Un adolescent de 17 ans poignardé.
Une autre femme assassinée.
Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
Comment faire fructifier votre argent sans risque?
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Marianne Bessette et Mario Dumont.
En manchette dans cet épisode, entente entre les partis, le PQ se sent floué. Un infirmier peut continuer à travailler malgré des agressions sexuelles sur des collègues. Un garçon de 10 ans se voit refuser l'accès à un autobus. Et un patient doit attendre un traducteur afin d'être servi en français.
Tout savoir en 24 minutes.
Tout savoir en 24 minutes.
Bonjour à tous et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
Après plusieurs semaines de négociations, bon, entre les parties, il y a une entente qui a finalement été signée et le PQ se sent floué. Il accuse même les autres formations politiques d'avoir fait preuve de mauvaise foi. C'est sorti il y a de ça quelques temps, là, le PQ pourra poser 7 questions tous les 10 jours, obtient un financement de 570 000 $ pour le travail parlementaire et 237 867 $ pour le bureau de circonscription de M. Saint-Pierre Plamondon. Il va avoir une place d'observateur aussi au bureau de l'Assemblée nationale, mais il n'y aura pas le droit de vote.
Ouais. Non, le PQ n'a pas gagné grand-chose. Des grenailles, un petit peu plus de place à la période des questions, un petit peu plus de budget, mais quand tu le calcules là, au salaire d'aujourd'hui, c'est même pas assez pour un employé de plus. Au bureau de l'Assemblée nationale, un poste d'observateur. Sincèrement, moi, à mon époque, ça avait jamais existé. Je sais pas si ça existait après, mais l'idée d'être au bureau, c'est d'avoir un vote. Là, c'est plus comme le bureau de l'Assemblée, c'est comme le conseil d'administration qui s'occupe des affaires courantes de l'Assemblée, là, des stationnements, des bureaux, mais de toutes sortes de budgets, toutes sortes d'affaires. Fait que, tu veux être représenté, tu veux pouvoir être entendu là. Fait que je comprends le Parti québécois, mais le Parti québécois était comme à genoux. Là. Essentiellement, le PQ, ils leur ont fait une première proposition qui était très défavorable. Puis là, ils leur ont donné quelques grenailles de plus. Puis là, ils leur ont dit, ben écoute, c'est à prendre ou à laisser. Là. C'est à prendre ou à laisser parce que si tu prends pas ça, t'es 3 députés, parce que s'ils signent pas l'entente, le PQ, ben, il n'y a pas d'entente. Donc, les 3 députés du Parti québécois vont être traités comme 3 députés indépendants. Fait que là, c'est plus rien pantoute. C'est une question, peut-être une de temps en temps, une par session parlementaire. Puis c'est des budgets de base de pour des circonscriptions. C'est rien du tout. Donc, le Parti québécois, à la fois, ça fait faire bizarre la nouvelle, parce que si vous la lisez, vous avez le Parti, il y a une entente. Le Parti québécois a donc signé l'entente, mais signé l'entente à genoux, là, signé l'entente, comme on dit, avec un bras tordu dans le dos, obligé de prendre ça, parce que sinon, c'est encore pire. Le grand gagnant, donc, le grand perdant, c'est le PQ. Le grand gagnant, c'est vraiment Québec solidaire, là, qui, eux, se sont négociés une excellente place à la période des questions, 3 questions par jour à toutes les périodes des questions, des budgets de recherche, fonctionnement et autres, autre d'une couple de millions. Alors, c'est vraiment... C'est Québec, disons, Gabriel Nadeau-Dubois, depuis le jour de l'élection, a très, très bien joué ses cartes en coulisses. Puis tu regardes par rapport au vote, c'est sûr que Québec solidaire a 11 sièges, le PQ en a 3, mais par rapport au vote qu'ils ont eu, qui sont presque le même nombre de votes.
Oui, c'est ça, parce que M. Saint-Pierre Plamondon a fait une longue publication Facebook dans laquelle il disait
Il est frustré, vraiment.
Ben, il est frustré, vraiment, parce que les 3 partis, soit le PLQ, le QS et le PQ, ont eu plus ou moins entre 13 et 15 pourcentage des votes chaque environ. Là. C'est ça un peu là, qui...
Ouais. Mais bon, c'est parce que le nombre de sièges dans l'équilibre, le nombre de sièges est quand même important. Puis là-dessus, le PQ l'a pas. Là. Ils ont juste 3 sièges. Est-ce qu'ils ont été... Eux considèrent qu'il y a plus que ça. Là. Eux, le PQ, considèrent qu'il y avait comme un jeu d'intérêt entre Québec solidaire, CLAC-CAQ, pour les laisser un peu de côté. Et qu'à cause de ça, ben, t'sais, on les a... Les autres se sont fait quasiment un deal préliminaire, puis ont laissé le PQ avec pas grand-chose. Là. C'est un peu le feeling qu'ils ont.
Un autre cas d'agression sexuelle, cette fois-ci, c'est un infirmier en chef de Salaberry de Valleyfield, oui, qui aurait agressé sexuellement au moins 2 de ses collègues. Ce sont des événements qui sont survenus entre 2010 et 2020. Et selon une des collègues victimes de Pierre Landry, il pourrait avoir beaucoup plus de victimes. On parle d'agressions qui se sont déroulées sur les lieux de travail, d'autres qui ont lieu dans des parties. Il était aussi l'assistant remplaçant représentante du département, donc qui était en position d'autorité. Puis malgré la nature des accusations, mais M. Landry est toujours autorisé
mais
à
oui,
travailler.
Je pense que c'est ça qui est la surprise.
Dans
les
lieux de la santé. Et son permis n'a pas été révoqué.
Ça, je le comprends, là, qu'il y a une présomption, le permis n'a pas encore été révoqué, tout ça. Mais qu'il n'y a pas un retrait préventif, comme dans bien des domaines, on va dire à partir, exemple, on va dire s'il y a des accusations contre une personne, même si les accusations, même si la personne n'a pas encore été condamnée, on va faire une espèce de retrait préventif de sa fonction. Je sais pas comment les collègues, je sais pas quelle atmosphère de travail ça crée, comment c'est reçu à l'interne. Remarque que l'hôpital Salaberry de Valleyfield, c'est un des hôpitaux qui a la pire pénurie de main-d'œuvre. C'est celui qui a eu toutes sortes de problèmes. Mais
l'homme a été renvoyé de l'hôpital. Ça faisait 25 ans qu'il travaillait là, puis il y a des infirmières, tu parlais du climat, Mario, il y a des infirmières qui ont dû changer de département parce qu'elles avaient peur de lui.
Mais ouais. Mais c'est ça. C'est un délai, disons, qui est un peu. Oui, il est autorisé à travailler dans le réseau de la santé. Il n'est plus dans cet hôpital.
Non, exactement. Mais son permis n'a pas été révoqué par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. En juin dernier, il a été condamné à une peine de 60 jours de prison, à purger une fin de semaine sur deux et à 150 heures de travaux communautaires. Mais compte tenu qu'il a été actif pour la société pendant des années de par sa profession, c'est les conséquences en lien avec son geste.
Histoire à suivre quand même disons que c'est pas l'ordre des infirmières et des infirmiers une grosse semaine dans l'actualité mettons là.
Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
C'est l'histoire d'un jeune garçon de 10 ans qui devait prendre l'autobus pour se rendre chez lui. Souvent, on voit souvent des jeunes prendre l'autobus là, de la Société de transport de Montréal. Mais le petit Victor Fortin, dont il est question, devait partir de son club d'échecs dimanche pour retourner chez lui. Il prenait la ligne 24 pour parcourir la rue Sherbrooke sur le plateau Mont-Royal. Il y avait seulement 9 arrêts à franchir. Quand il rentrait dans l'autobus, la chauffeuse lui a demandé il avait quel âge, puis lui, il était un peu brusqué par la question, il a répondu qu'il avait 11 ans, mais son véritable âge est 10 ans. Puis la chauffeuse lui a répondu, non, t'as pas le droit de rentrer dans mon autobus, va-t'en, sors tout de suite. Donc le petit gars a été refusé d'un accès à un autobus par la chauffeuse, là, il était un petit peu...
Mais est-ce que, j'ai lu un peu là-dessus, est-ce qu'il y a vraiment un âge minimal,
non,
légal?
Non, il y a aucune loi au Québec qui fixe un âge minimum pour prendre un autobus, ni même de politique à la STM en la matière. Par contre, les employés ont la consigne de demeurer vigilants et aussi sensibilisés. Ils sont sensibilisés à l'importance d'intervenir s'ils voient des enfants ou qui pourraient être en danger ou en détresse, par exemple.
Mais en fait, tu le vois en partant. Bon, 10 ans, là, c'est peut-être un peu limite, c'est un peu jeune, mais pas tant que ça, quand même. Là, mais si tu vois qu'un enfant a l'air tout perdu, mais si t'as un enfant qui a l'air à savoir exactement ce qu'il fait, où il va, etc. Mais en fait, là, le laisser, en plus, il faisait froid ce jour-là. On décrit que c'était une journée particulièrement froide. Le laisser sur le trottoir au froid, je pense pas que c'est une grosse valeur ajoutée. En termes de décision, je pense pas que c'est une grosse valeur ajoutée
mais
par rapport
ça,
à le laisser monter. Là.
Quand t'as 10 ans non plus, tu sais pas quoi faire dans ce genre de situation.
Là, il fait quoi? Il appelle sa mère?
Il rentrait à l'intérieur dans son club d'échecs. Il a appelé sa mère. Sa mère, c'est elle qui lui a dit, en fait, d'aller se réchauffer, pauvre petit, de pas rester au froid. Puis, elle lui a conseillé de prendre le prochain autobus qui passait quand même dans seulement 30 minutes. Et dans l'autre autobus...
Le chauffeur suivant, il a rien dit. Là.
Ouais, il a admis. Non. Mais c'est quand même traumatique. Là. La mère explique que pour lui, il a peur de reprendre l'autobus seul, de peur que la situation se reproduise à nouveau. C'est vraiment un événement là, qui est venu troubler un peu le jeune enfant qui se pratiquait à prendre l'autobus. Parce que l'année prochaine, il rentre au secondaire. Là, il a sauté une année, c'est important de le dire.
Curieux jugement. Tu disais, personne fait la balance des inconvénients. Puis, finalement, c'est mieux, je le laisse sur le trottoir au froid. Curieux jugement.
C'est un patient francophone dans l'Outaouais qui a dû attendre pour se faire servir en français. C'est Guy Massicotte, 57 ans, qui avait un rendez-vous pour un suivi post-opératoire d'une chirurgie. Puis le médecin qui s'est présenté devant lui parlait pas français. Il a demandé « Est-ce que vous parlez anglais? » Puis lui, il a dit non. Il a demandé de recevoir des services de santé en français. Souvent, les termes en plus en médecine sont quand même complexes. En anglais, quand tu parles moyennement la langue, c'est quand même difficile à comprendre. Puis lui, il vit dans l'Outaouais. Donc, il dit « On est fortement anglicisé. » Donc, le médecin a quitté la salle.
Non, l'Outaouais, c'est clairement majorité francophone. Là, il y a une communauté anglophone, il y a des anglophones.
Mais lui, il dit on est fortement anglicisé.
Ben, oui, un peu dans le Pontiac, un peu dans le Pontiac. Il y a une partie de Gatineau, il y a des anglophones, mais je veux dire, la majorité est nettement francophone en Outaouais. Là.
Ouais, tout à fait. Et puis, il dit quand on demande des services en français, ils sont pas très gentils avec lui. Donc, c'est ce que M. Massicotte prétend. Puis, le médecin a quitté la salle en disant qu'il avait besoin d'un traducteur. Et là, le patient s'est retrouvé seul. Il dit, personne n'est venu me voir. Il dit, moi, je suis resté là à attendre. Personne s'occupait de lui.
Ouais, mais là, on a dû le faire payer un peu parce que requérir un traducteur, c'est comme si là, il donnait du trouble. On a dû le faire payer un petit peu, là.
Puis, ben, environ 30 minutes plus tard, il y a une médecin francophone qui est finalement arrivée puis qui l'a servi dans sa langue. Mais c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses-là dans un hôpital. Je pense que c'est hier, il y a une dame qui a mentionné devoir mimer, l'avoir envie d'uriner pour qu'on puisse lui indiquer où sont les toilettes. Donc, c'est quand même récurrent.
C'est quand même bizarre. Mais ça, c'était l'hôpital juif de Montréal, si je ne me trompe pas.
Ouais.
Pas la première fois que cet hôpital-là, il y a des problèmes. Alors qu'un hôpital qui est dans l'ouest de Montréal, qui sert une population à majorité anglophone, certainement. Mais c'est pas la première fois qu'on a des problèmes à se faire servir en français, cet hôpital-là.
Tout savoir en 24 minutes.
Le gouvernement va faire appel pour la décision de la Cour supérieure qui invalide l'article du Code de la sécurité routière qui permet aux policiers d'intercepter des véhicules sans motif. C'est le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, et son collègue responsable de la lutte contre le racisme qui a fait l'annonce. Donc, je rappelle que l'article 636 est utilisé par les policiers lors de l'interception d'automobilistes pour lutter notamment contre l'alcool au volant, l'interception d'individus dont les agissements peuvent être considérés
suspects,
comme
mais
suspect.
C'est celui qui était attaqué par ceux qui disent qu'il y a du profilage racial, qu'on arrête des individus. Ouais. Le fameux cliché là, mais de la personne noire dans un véhicule de luxe qui roule parfaitement normalement à bonne vitesse, qui fait ses arrêts, qui fait tout correct, mais qui se fait arrêter quand même parce que l'idée de profilage ou l'idée de la question, comment ça se fait que lui il se promène en BM, tu sais. Mm-hmm. Je comprends la position du gouvernement qui s'est fait faire des reproches toute la journée là, vraiment de partout, mais qui dit que au nom des représentations que lui font les policiers, c'est pas qu'ils veulent faire du profilage racial, ils veulent combattre le profilage racial, mais que des opérations en matière d'alcool au volant, d'autres types d'opérations, pourraient être rendues impossibles par la décision de la Cour. Donc, veulent aller plus loin pour que la Cour précise exactement qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut pas l'être, etc., que la Cour trace une ligne. On verra ce que ça va donner, mais c'est certain qu'en allant en appel, il y avait Québec solidaire avait demandé au gouvernement, allez pas en appel là-dessus, il faut mettre fin au profilage racial, etc., etc. J'ai un peu de misère. Est-ce que vraiment, par exemple, tout le dossier des barrages routiers, exemple, dans le temps des fêtes, quand le gouvernement fait un barrage routier, est-ce que ça entrerait vraiment dans la définition? Parce que là, c'est sûr que c'est t'arrêtes tout le monde. Fait que c'est forcément des arrêts aléatoires. Là. Les gens n'ont pas fait d'infraction, t'arrêtes tout le monde. Est-ce que vraiment ça l'empêcherait? Est-ce que ça va aussi loin que ça? Peut-être ça que le gouvernement veut faire préciser par la Cour, mais bon, dans l'état actuel de l'opinion publique sur une question comme le profilage racial, le gouvernement, c'est sûr, s'est fait des bleus aujourd'hui, elle s'est fait attaquer de partout avec cette décision d'aller en appel.
Ouais, puis qu'est-ce qu'ils disent aussi, c'est qu'ils considèrent que c'est injustifié d'abolir un outil qui est important pour le corps policier, puis qu'il y a une manière de mieux l'utiliser en quelque sorte.
Et j'espère que la Cour va préciser ça.
La fonderie Horn, ça, on en entend parler depuis longtemps. Ben là, le gouvernement tarderait à imposer à la fonderie une réduction d'émissions d'arsenic dans l'air. Puis les résidents de Rouyn-Noranda l'attendaient pour le 20 novembre. On est le 25, mais vont encore devoir patienter. Et là, c'est encore l'ancienne entente qui s'applique. Donc, la fonderie peut continuer de rejeter un maximum de 100 nanogrammes d'arsenic par mètre cube. Et Québec s'est engagé à imposer un plafond de 15 nanogrammes par mètre cube d'ici 5 ans. Et l'entreprise avait promis de s'y conformer, mais pour l'instant, là, ça va encore être un dossier de patience pour les résidents de Rouyn-Noranda.
Ouais, mais ça va devoir se faire. Là. Le gouvernement, les engagements, même localement, là, par exemple, les gens de Québec solidaire trouvaient que c'était pas encore assez comme engagement, etc. Mais le gouvernement a quand même pris des engagements, va devoir les respecter.
Oui, puis le ministère a quand même reçu plus de 45 mémoires, plus de 1200 réponses de questionnaires à l'occasion des consultations publiques qui se sont tenues cet automne. Donc, puis en plus avec les recommandations de la santé publique.
C'est un dossier chaud là-bas.
Économie.
Les Québécois devraient commencer à recevoir des chèques de la CAQ, promesse qui a été promise pendant la campagne électorale par la coalition Avenir Québec. Donc, les personnes qui ont un revenu net de 50 000 $ ou moins vont recevoir une aide ponctuelle de 600 $. Celles dont le revenu net se situe entre 500 000 et 100 000 auront droit, eux, à un montant minimal de 400 $. Et les personnes dont le revenu net, encore une fois, varie entre 100 000 et 104 000, eux vont recevoir un montant moindre qui va être établi en fonction de leur revenu. Puis
ça va de 400 à zéro. Là. C'est régressif de 400 à zéro dans cette tranche-là. Aujourd'hui, c'est Revenu Québec, parce que c'était déjà, le gouvernement avait déjà annoncé l'intention. Je pensais que ça allait arriver un petit peu plus tard en décembre avec la session parlementaire, mais là, Revenu Québec...
Début décembre. Là.
Ouais, Revenu Québec dit tout est prêt. Donc, à partir de la semaine prochaine, là, les gens vont commencer à le recevoir. Est-ce que tout le monde va l'avoir reçu la semaine prochaine? Je ne sais pas. Mais donc, ceux qui ont le dépôt direct, faites pas le saut s'il y a un dépôt...
Un 400 ou 600
déposé dans votre compte de banque, puis, exactement.
On doit mentionner, Mario, que les citoyens n'ont aucune démarche à faire pour obtenir l'aide financière, que le montant, comme tu dis, va être versé automatiquement par dépôt direct ou encore par chèque. Mais il faut faire attention à la fraude. C'est Revenu Québec qui met les citoyens en garde contre les nombreux courriels, les textos.
Je pense que j'en ai tant vu. Je pense que j'ai jamais autant vu de tentatives de fraude. Au début, c'était au nom de la CAQ. La CAQ veut vous verser votre chèque. Après ça, c'était au nom de Revenu Québec, du gouvernement du Québec. Moi, j'en ai reçu des messages textes de toutes sortes pour essayer de te faire cliquer. Et le gouvernement a beau le dire et le redire et le redire. Vous avez rien à faire, cliquez pas. C'est juste des... En fait, quasiment tout ce qui passe aux nouvelles, là, t'sais, que dites-vous que si le gouvernement il vous enverra pas un texto pour vous verser votre argent, que ce soit cette nouvelle-là ou un autre. Dites-vous juste qu'il y a des arnaqueurs qui ont écouté la même nouvelle que vous, que le gouvernement va annoncer une nouvelle aide.
Et qui en profitent.
Ils disent, les gens vont entendre ça, un chèque de 400$. Après, on va leur faire croire qu'il faut qu'ils cliquent ici. C'est juste ça, là. Donc, vous avez rien. En fait, c'est pas vrai que vous avez rien à faire. Si vous n'avez pas fait encore votre rapport d'impôt pour l'année 2021, donc si vous êtes quoi, on est rendu au mois de novembre, 5 mois en retard pour votre rapport d'impôt 2021, faites-le. Vous allez peut-être payer des pénalités pour le retard, mais vous allez avoir droit à votre 600 $ ou votre 400 $. Mais si votre rapport d'impôt 2021 est rentré, vous avez rien d'autre à faire.
Exactement. Puis on parlait de fraude. Là, d'ailleurs, il va y avoir une campagne de sensibilisation qui va être faite dans les prochaines semaines pour augmenter la vigilance des gens face à ce type de stratagème. Là,
Par contre, le stratagème des textos là, au nom du... Tu dis quelqu'un qui se fait encore prendre, je veux pas être... Mais hey, on me semble, là, c'est la millième fois qu'on le dit, on le répète, mais je le sais, il y a encore des gens qui se font prendre.
C'est ça, si on en parle, parce qu'il y a encore des gens qui se font prendre.
Puis si les arnaqueurs le font, c'est parce que ça marche, là, ils gaspillent pas leur énergie à faire de quoi qu'ils rapportent pas. Mais des fois, je comprends plus, je me dis ça. Les premières fois, je comprenais, mais on s'est tellement dit partout, répété. Je sais qu'il y a des gens qui écoutent aucune information. Je peux pas imaginer que des gens se font encore prendre à ça, là.
Justement, avec le chèque de 400 ou 600 $ que les Québécois vont recevoir, ben il y en a peut-être qui vont décider de le dépenser dans le cadre du Vendredi fou ou encore du Cyber lundi. Aujourd'hui, c'est le Black Friday aussi qu'on peut appeler ce grand événement-là de magasinage. Ça arrive une fois par année.
J'ai de la misère à me faire une idée. Là. Nous-mêmes, à LCN, il y a des endroits où nos reporters sont arrivés. Il y avait des fils pour certains produits électroniques tôt ce matin.
Ah oui, il y en a qui ont fait des heures et des heures d'attente.
Il y a d'autres endroit où c'était une affluence plus normale, une affluence pour un vendredi matin.
Achalandé,
peut-être un petit peu plus que la normale, mais pas des fils comme des autres années. Fait que j'ai de la misère à me faire une idée là, sur est-ce qu'il y a un petit ralentissement, parce que quand même, on en parle beaucoup de coûts de la vie, d'inflation. Il y a deux facteurs. Tout est plus cher Et il y a une menace de récession l'an prochain. Donc, est-ce que les gens vont être un petit peu moins agressifs sur les achats? J'ai hâte de voir. On va voir les bilans la semaine prochaine.
Ouais, ou encore, est-ce que les gens vont profiter de ces rabais-là? Parce qu'il y a une mère qui disait qu'elle en profitait pour acheter des cadeaux de Noël, pour acheter plusieurs choses
juste,
à ses enfants.
Il faut juste avoir les vrais rabais, parce qu'il y a une partie de vrais. Tu sais, quand les experts qui connaissent les prix des choses regardent ça, il y a des vrais rabais. Mais t'as un paquet d'autres attrapes consommateurs. C'est-à-dire qu'on te fait rentrer dans le magasin avec un rabais, mais finalement, là, ça, il y en avait juste 30 à vendre à ce prix-là. Puis là, quand t'arrives, toi, à l'heure que t'arrives, il en reste plus. Mais là, une fois dans le magasin, tu dis, ah, ben, je vais acheter d'autres choses, un autre modèle. Finalement, lui, il est au prix régulier ou, tu sais. Fait que c'est pas toujours, puis il y a certains, produits qu'on va dire une petite réduction, un 10 ou un 20 %, mais dans le fond, en réduisant 10 %, dans le fond, c'est comme si tu reviens au vrai prix, ce que ça vaut. Fait qu'il faut être y a pas juste des aubaines. Les magasins font pas ça pour nous donner leurs marchandises en cadeau, là. C'est une grosse opération pour augmenter le volume commercial. Donc, quelqu'un de ratoureux, là, un consommateur avisé qui connaît vraiment le prix des choses peut aller chercher la bonne aubaine ou les bonnes aubaines ici et là. Mais le consommateur un peu perdu qui fait juste se faire impressionner par la journée puis la grosseur des pancartes puis les lumières allumées puis
le nombre de publicités aussi.
Ouais,
là, les consommateurs ont reçu une avalanche de courriels.
Sur nos courriels, c'est pas possible.
Peu importe le magasin auquel t'es abonné à l'infolettre, par exemple, ou même pas abonné à l'infolettre, souvent à la caisse, on demande une adresse courriel. Ben ça, pour des journées comme aujourd'hui, comme le Vendredi fou, le Cyberlundi, les compagnies vont en profiter des courriels ou des publicités en ligne, sur les réseaux sociaux, dans les circulaires. Ouais, ça, c'est une grosse journée là, pour les détaillants aujourd'hui.
Le Monde.
Au Brésil, il y a au moins 3 personnes qui ont été tuées et 11 blessées dans 2 attaques, en fait, par arme à feu dans des écoles dans l'État d'Espírito Santo au sud-est du Brésil. Ces 2 assaillants qui sont entrés dans une école, un d'eux a tiré sur des enseignants, ça a tué 2 femmes, ça a blessé 9 autres personnes. Par la suite, se sont rendus dans une autre école, là où ils ont tiré sur une adolescente qui a été tuée par balle. Et il y a 2 autres personnes qui ont été blessées. Puis on dit qu'ils sont vraiment persuadés là, que le meilleur accès aux armes à feu de ces dernières années sous le gouvernement a facilité ce type d'attaque, parce que le Brésil, c'est un pays qui est pourtant violent, mais les fusillades dans les écoles restent toutefois relativement rares là, au Brésil.
Le modèle américain qui est exporté, là, c'est malheureusement peut-être ça.
Oui, peut-être. La plus meurtrière a eu lieu le 7 avril 2011, qui a tué 12 élèves. Puis il y en a également une en mars 2019, où il y a 2 anciens élèves là, qui ont tué par balle 8 personnes et blessé 11 personnes également. Il y a un garçon de 5 ans qui a survécu à l'attaque d'un python en Australie. Il était dans une piscine et c'est un python de 3 mètres de long qui l'a attaqué. Il a mordu l'enfant, il l'a fait chuter avec lui dans l'eau, il s'est enroulé autour de sa jambe et c'est le grand-père du jeune garçon qui est venu à sa rescousse, qui a essayé de le détacher du piton et qui a essayé de le calmer. Puis ils ont nettoyé le sang, ils ont dit qu'il allait pas mourir parce que les pitons, c'est pas un serpent qui est venimeux. Et là, l'enfant s'est calmé, puis ça a plutôt bien été. Puis il est quand même traité là, pour éviter que sa morsure s'infecte.
Il y avait quand même un serpent dans sa piscine.
Il y avait mais en Australie, il y a quand même beaucoup
Non, je sais.
Il y a quand même beaucoup.
Non, c'est une réflexion.
C'est comme les araignées.
Les araignées, ça me dérange pas du tout, zéro. Là.
Ils provenaient de la végétation voisine. Selon le père de l'enfant.
Je comprends tout.
Mais oui,
je te dis que moi, avoir un serpent dans ma piscine, là, c'est non.
Au Québec, tu ferais le saut.
Non, mais même en Australie, si je louais une maison en Australie dans un voyage, je me retrouvais avec un serpent dans la piscine. C'est sûr que pour le reste de ma vie dans ce pays-là, je ferais tout un tour du terrain avant de sauter dans la piscine une autre fois. Il me semble que c'est le traumatisme.
Mais c'est sûr que ça fait peur.
C'est le traumatisme ultime. Je suis pas très fort sur les serpents. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.